Ça tourne. Donc nous sommes toujours dans le foyer des dockers, oui. Quartier de l'Eure, pour la rue Everleur. Pierre Guillard, bonjour.
Bonjour.
Je suis enchantée d'avoir l'occasion d'interviewer un capitaine au long cours. C'est très beau comme...
Et malheureusement, on est les derniers d'une race qui se perd, puisque depuis 1967, on a décidé de ne plus faire... d'éliminer les capitaines au long cours pour les remplacer par un terme beaucoup plus technologique, capitaine de première classe de la navigation maritime. On regrette parce que
c'est
pour nous, ça date de François Ier, c'était quand même assez... c'était plus poétique.
Effectivement. Alors j'ai vu que vous étiez breton, c'est pas forcément étonnant de rencontrer un breton au Havre.
Non.
C'est pas forcément étonnant non plus de rencontrer un navigateur qui soit breton.
Non.
Et peut-être que vous pouvez nous expliquer, là vous présentez deux livres, Voyage d'un savant et Murmure, alors qui est sous-titré 20 ans dans l'après-guerre,
voilà, c'est ça Parce que je n'ai pas voulu mettre avoir 20 ans dans les horaires. Donc j'ai éliminé avoir. Donc j'avais 20 ans quand j'ai écrit ce livre.
Alors je ne sais pas comment vous voulez qu'on aborde ces deux livres. Comment êtes-vous passé de la navigation à l'écriture? Vous preniez beaucoup de notes pendant vos voyages?
Je ne suis pas passé de la navigation à l'écriture, je suis passé de l'écriture à la navigation.
Ah, bon, je veux bien que vous nous expliquiez ça.
Ben, c'est-à-dire que dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à écrire... Donc ce petit livre, le Murmure, alors que j'étais à l'école de navigation de Nantes, j'étais en deuxième année, on disait un lieutenant au cours, hein, si vous voulez, et j'ai eu une pleurésie tuberculeuse, donc à l'époque, la tuberculose, j'étais mis en longue maladie, six mois, ça se prolongeait. Et donc j'écrivais, j'écoutais de la musique. Bon, j'avais pratiqué aussi un instrument, le violon.
Du violon.
Et de l'alto. Et je suis un peu... Je ne suis pas... Je suis mélomane.
Mélomane et donc l'écriture, parce que évidemment, c'est la tuberculose quand même, ça doit être très douloureux, très dur à vivre, surtout pour un jeune homme.
Voilà.
On doit se sentir vraiment coupé de la vie.
Quand on n'a pas autre chose à faire que d'attendre que la maladie veuille bien passer, j'écrivais et puis j'ai continué. Donc ce petit livre, je l'ai fini au début des années 50. Et là, j'ai été guéri. Ce livre n'avait pas ce titre. Il n'avait pas ce nom. C'est-à-dire, j'avais un pseudonyme. Il avait été, à l'époque, sélectionné pour le prix des libraires. Dans les 10 sélectionnés. Et je n'eus pas le prix des libraires. Alors là, pour un jeune, vous savez, tuberculeux, pas le prix, terminé. Donc il était resté derrière. Donc c'est un petit roman. Comme tout roman, il y a un peu de moi, il y a un peu de mes amis, et qui se passe à Nantes dans les années 50, un peu métaphysique. Donc, vous voyez, j'étais très influencé à l'époque par, d'une part, l'existentialisme chrétien et Sartre.
D'accord. Ah oui, en effet, c'est deux pistes.
Gabriel Marcel et Jean-Paul Sartre. Donc, c'est ça. Donc c'est un roman existentialiste d'un jeune qui croyait existentialiste à l'époque.
D'accord. Et alors qu'il vient d'être réédité ?
Non, il ne vient pas d'être édité. Il avait été proposé par la librairie Le Bris à Brest pour le prix des libraires.
Ah oui, n'ayant pas été publié ?
Non, rien. Il était là. Et alors... En 1998, quelques années après, vous voyez,
en effet.
Dans une autre vie, parce que j'étais veuf et remarié, je me suis retrouvé président de l'entente culturelle du pays de Dinan. Et alors là, tous les ans, depuis 25 ans, l'entente publie un livre de 300 pages, 350 pages, qui s'appelle « Le pays de Dinan », dans lequel les écrivains locaux s'expriment. Donc, comme j'étais le président, j'ai écrit un récit. Déjà, un récit autour de Claude Bernard, d'ailleurs. donc sur la, entre Hambourg et Buenos Aires. Et mon épouse a offert ça parce que mon épouse était directrice de la revue Psychologie et Éducation. Elle a offert ce livre à Noël 98 à son éditeur. L'éditeur a lu mon truc et il a téléphoné. Est-ce qu'il a écrit autre chose? Il y a des trucs dans le grenier. J'arrive.
D'accord.
Et il me l'a publié en me demandant. Et, attends, la photo, la première de couverture, c'est l'éditeur. J'avais cette statuette à Caen qui est la statuette de la fécondité du peuple à Caen. Il a mis ça, ça n'a aucun rapport.
Oui.
Enfin, moi, je me demande qu'est-ce qu'il a trouvé, lui. Lui, l'éditeur était d'origine antillaise. Et je pense qu'il y a trouvé un rapport avec mon récit, mais je n'ai toujours pas compris.
Mais ça, on dit souvent que les œuvres échappent. Là,
voilà,
le sens
voilà. Alors, donc ça, c'est la première fois. Et donc, et je me suis mis donc, à écrire donc, des récits comme ça. Et ils m'en ont déjà publié 7 dans le pays de Dinan.
D'accord.
Et donc, je suis en train de d'écrire, je fais par période, vous voyez. Alors je suis à ma période congolaise maintenant. Donc ma période congolaise, au départ du Havre en 63, je suis parti pilote du Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Et là, c'était là, aussitôt après l'indépendance, vous voyez, il s'est passé un tas de choses. J'ai vu naître le mouvement Jeunesse Nationale Révolutionnaire, JMNR. J'ai piloté le Che Guevara. Chose que les gens ignorent, non pas que je l'ai piloté, mais qu'il soit venu au Congo-Brazzaville. Parce que je ne trouve pas de trace nulle part de dire que le Che est venu au Congo-Brazzaville.
Vous avez fait des recherches
Ah non, j'ai lu toutes les trucs. On n'en parle pas. Il y a 3 mois de vide dans son histoire. Alors, ben, moi, je suis... Je suis que j'ai vu se passer comme auprès de vous avec le Che. Donc ça, je me le réserve pour le prochain. C'est peut-être ça qui a incité cet éditeur à me publier d'urgence ça cette année que je termine l'autre.
D'accord. Ah ben c'est, oui, c'est intéressant.
Voilà.
Alors, Voyage d'un savant, par contre. Alors, c'est deux récits.
Donc, oui, alors c'est deux récits que l'éditeur a jugé complémentaires. Donc, un... Je suis capitaine en cours en 58, le 8 novembre 58, et j'embarque sur le Claude Bernard, qui est un navire du Havre, donc la ligne Hambourg-Buenos Aires, vous voyez. Donc, navire postal. À l'époque, on arrivait à 6 heures à Rio du matin, on repartait à 6 heures le soir, on était à 6 heures à Santos, et il y avait une ligne très régulière, on amenait la poste, les colis postaux, la valise diplomatique, et donc les bagages accompagnés. Et donc j'étais le lieutenant, l'officier chargé de la valise diplomatique, de la poste, etc. sur ce navire. Et donc ça me permettait de rencontrer un tas de gens.
Ah oui. Alors ça a l'air haut en couleur, on n'a pas encore lu le livre, on va se jeter dessus tout à l'heure. Mais tout à l'heure on m'avait parlé justement de quelques anecdotes, notamment
c'est-à-dire...
fameuse Steinway, entre autres.
Voilà, alors là oui, alors quand j'embarque, c'est dans les premières lignes du livre, enfin dans les premières pages, hein, parce que bon j'essaie de situer le navire quand même. Et j'entends la sonate au clair de lune de Beethoven alors que le navire est en arrêt technique au Havre et qu'il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et quand je m'approche du piano, il y a un super playel blanc, et bien l'ombre fuit. Et je ne vois pas qui a joué, qui peut jouer comme ça. Je monte à la passerelle, je demande au rondier. Rien d'anormal, non, lieutenant, rien d'anormal. Alors j'ai dit, mais vous n'êtes pas passé au fond C, je ne sais plus, enfin, donc au salon des premières classes. Il me dit si. Il me dit rien d'anormal, il me dit vous voulez parler du piano? J'ai dit oui, vous savez qui en jouait? Il me dit moi. Il était premier prix du conservatoire de Paris. Et il avait été prisonnier de guerre pendant la guerre 39-44. Et donc sa carrière était terminée. Alors il était compositeur, je ne dirais pas le nom. Et donc il naviguait en qualité de matelot alors que sa famille ne savait pas. Vous voyez,
donc juste après une brève interruption technique. On en était à une, une anecdote, mais enfin bon, une des grandes aventures qui sont
au début de ce récit. Tous les voyages, il y avait des...
Voilà, je suppose, oui. Le choix n'est pas facile. Vous avez...
Voilà, alors donc... et donc c'était lui, le matelot était le pianiste.
Il jouait la sonate de clarinette.
On est resté un mois après. Il m'a demandé, dans le livre, je le mets, il était inquiet, il n'avait pas le droit de jouer avec ses pianos. Mais enfin, moi, j'étais mélomane. Et ça, je lui ai dit, c'est simple, la punition, c'est quand on ne sait pas de service, vous me ferez un récital, et il m'a fait un récital.
Ah, magnifique.
C'est pas beau. Pour moi, tout seul, en tant que... Dans le luxe, voilà. Alors donc, nous sommes partis et arrivés à Hambourg, donc je raconte comment ça se passait à l'époque. Donc j'essaie de mettre l'ambiance de cette ville qui se reconstruisait, etc. J'ai découvert d'ailleurs les couleurs de Chagall, vous voyez, enfin en plus de la musique. Hein. Et mon matelot musicien, comme je l'appelle, m'appelle et me dit, lieutenant, venez voir, on vient d'embarquer un Steinway.
Allez-y.
On vient d'embarquer un Steinway. Et donc, en bagage accompagné, on va demander, donc avec le service du commissariat ou commissaire, dont je parle d'ailleurs, et c'était une passagère de troisième classe qui embarquait au Havre. Donc curieux, parce que jamais les passagers de troisième classe ont comme bagage un super Steinway, la Rolls Royce des pianos. Et donc, eh bien, c'était une pianiste argentine, élève d'Yvna et de Marguerite. Donc comme avait été mon piano 10 ans, mon matelot 10 ans avant, et donc nous avons fait sa connaissance au large. Après, dans les alizés. Et bon, ça, bon, je pense, je vous invite à lire. Donc, c'est en filigrane dans le voyage, quoi. Hein, et tout en mettant l'ambiance à bord, tant d'équipage, que des passagers. Alors, il y avait des premières classes et du luxe, 80. Pas de seconde. Donc, un mur. Des troisièmes classes. Essentiellement des émigrants de l'Europe de l'Est, et quelques passagers sud-américains qui avaient réussi à sortir de la mouise là-bas et qui faisaient un voyage aux sources en troisième classe. Et dans les faucons, dans les cales, derrière les barreaux, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, les émigrés espagnols expulsés par Franco des villages entiers et par Salazar. Et en plus, en troisième, à chaque voyage, des femmes, curieusement, qui avaient un voyage aller simple, avec un homme et une mère McRae. Vous voyez, voilà, on a vécu ça. Mais ça, ils payaient leur voyage. Hein. Et nous, l'accompagner et nous, on n'y était pour rien. Donc voilà. Et donc, j'essaie de raconter cette ambiance, jusqu'à Buenos Aires, comment ça se passe à bord, etc. Le concert que nous a sorti Louisa Sorin, s'appelait la soliste du Théâtre Colonne à Buenos Aires, elle venait de faire une série de récitals à Budapest, Édimbourg, Paris, etc. Et elle voyageait en troisième pour différentes raisons, mais elle était recommandée par le siège et on l'a traitée comme une star. Et donc, voilà, vous verrez si vous lisez. Alors
bien
ça,
sûr.
C'est le premier récit. Et le deuxième récit, donc je viens de quitter ces paquebots, je suis second capitaine sur un Liberty Ship. Il y a 3 semaines, 1 mois que je suis à bord. On part d'Abidjan vers Douala. Il y a quelques heures qu'on est parti d'Abidjan, on frappe à ma porte, je faisais ma sieste à 17h. Enfin, on fait le quart, j'étais dans ma cabine à 17h pour prendre mon quart à 19h. On frappe et le maître d'hôtel m'annonce que le commandant est mort. Et donc, je me retrouve, jeune second capitaine, avec un commandant à l'agonie. Et donc, il y a une happy end. Hein. Mais, j'explique pas. J'essaie de faire vivre cette ambiance cet après-midi-là, au large. Le jeune radio, c'était mon premier voyage de radio. Le commandant, c'était son premier voyage de commandant, mon premier voyage de second capitaine. Il n'y avait que le chef mécanicien qui avait 2 ans de plus que nous, qui avait un peu d'ancienneté.
Ah, il a une grande
et donc ne pas savoir.
Je
le voyais mourir. Il se pâlissait, il donnait. Bon, voilà. Alors. Je ne dis pas plus parce que j'invite à lire la suite.
Bien sûr. Voilà.
Donc ça, alors mon éditeur m'a dit 2 récits seulement, j'en ai 7, hein, déjà, décrits, plus mon récit que j'appellerai, à mon sens, le chant des bidouilles, donc pour mon récit congolais, parce que j'ai piloté 5 000 navires, donc je rentrais, rentrais 2500. Donc... je rentre, à chaque fois qu'on rentre et on sort du port, il y avait un champ de billes de bois. Vous savez, ils sont amarrés, il y a un fil d'acier qui passe dans un anneau. Cet anneau qui est enfoncé, s'appelle une pigouille. Et suivant la grosseur de la bille, etc., quand vous passez, ça fait des vaguelettes et ça chante.
Ah oui, c'est trop poétique aussi.
Voilà.
Il ne nous reste plus qu'à inviter nos audinotes à découvrir ces récits. Et puis on espère vous revoir.
Mais celui-là n'est pas biblique, il y a les pigouilles.
Voilà. On compte sur vos éditeurs.
Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup.
Pierre Guillard, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.